Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe pour un numéro spécial des Papous enregistré en public à Brest pendant le festival Longueur d'onde la semaine dernière. Longueur d'onde, le festival de la radio qui, comme tous les ans, réunissait au Quartz les professionnels côté animation, côté technique, les amateurs aussi dans un joli mélange. Et vous, les auditeurs. Et pour les Papous, la grande salle du Quartz, c'est ces 800 personnes venues pour nous, bravant la pluie diluvienne et le vent, c'était si bon et joyeux. Une soirée à découvrir en deux dimanches. Avec moi sur scène, Dominique Muller, Lucas Fournier, Violaine Schwartz, Hervé Le Tellier et Jean-Bernard Pouy, prêts à tout pour vous faire sourire. Un numéro des Papous dans la tête à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. Et pour ouvrir ce numéro un peu spécial des Papous dans la tête, je vous propose des portraits maritimes. Les portraits maritimes des Papous présents, qui seront dits et qui ont été écrits par Jean-Bernard Pouy, Dominique Muller et Lucas Fournier. Et c'est Jean-Bernard Pouy qui commence. Il a fait le portrait de Dominique Muller. Oui, levez la main, Jean-Bernard, pour qu'on sache qui vous êtes.
Ce ne sont pas exactement des portraits maritimes, c'est des portraits météo.
Météo marine pour vous.
C'est ça qu'on m'avait demandé.
Voilà. Donc vous faites la météo marine de Dominique Muller.
Mer belle et agitée sur Fischer, Viking et Forties. La dépression Dominique Muller reste donc instable. Venue du golfe Adriatique et de Venise en particulier, elle a gagné nos côtes, créant un brouillard mystérieux, type alsacien, épais par endroits, et aussi des nuages bas. Mais cette zone dépressive est souvent trouée, le soir, par des phénomènes raciniens, flaubertiens, et des éclaircies de type adolescent attardé. La température monte, 5 ou 6 degrés Celsius, le vent faiblit, à peine force 1 Beaufort, donc la coiffure reste convenable et la robe sage. La dépression Dominique Muller s'accompagne aussi de fortes vagues de champagne, mais on a généralement droit à une houle stylistique irrégulière, houle sentimentale bien sûr, jamais de calme plat et permanence d'un front froid le jour et chaud la nuit.
C'est très ressemblant, non? Vous êtes contente, Dominique?
Je me suis vue.
Oui. Alors vous, justement, je vous ai confié Jean-Bernard Pouy. Et c'est sous forme de poème que vous allez le traiter.
Il est déjà un poème à lui tout seul. Donc
c'est vrai.
Avec sa gueule de pâtre grec qui aurait fumé du varec, JB a un cœur d'artichaut, bourru, breton, mais pas macho. Des marins de la SNSM, on dirait qu'il a pris l'emblème. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes, il connaît la méthode sans le discours. Les raseurs guettent, JB, au secours! Le rire et la bouée de Pouy, pas question de périr d'ennui. De Vannes à Brest en Finistère, c'est Vannes l'Est Finistère.
Oh. Alors, j'avais confié le portrait de Serge Joncourt à Lucas Fournier. Serge Joncourt est désolé, il était légèrement souffrant, on l'excuse. Il n'a pas été remplacé parce que, comme tous les Papous, il est irremplaçable. Mais il n'est pas là. On écoute quand même Lucas, non ?
Ce soir, oui, le beau Serge est en rade. Car Serge n'est pas que beau. Il est au long cours. Il est même au large. Large d'idées, d'épaules et de ventre. C'est pour ça qu'il a refusé de venir.
Oui, c'est vrai.
Il est si souvent au large qu'il est à l'ouest. On ne sait pas où, lui non plus. Pour se guider sur les mers veilleuses, il a son phare felu. Sa quarantaine rougissante vient d'une enfance à marée basse. Alors chez lui, la plaisanterie n'est pas lourde ni salée. Elle est fine de clair, comme ses yeux couleur océane. J'en cours, toujours recommencer. Il est Neptune à la barbe d'écume, un enfant de la haute mer, un singe en hiver, un calmar au printemps, un amiral en été, un drakkar en automne, veni, vidi, viking. Bref, pour parler de Serge, on a vraiment l'embarras de l'anchois.
Retour à la météo marine et à Jean-Bernard Pouy pour le portrait de Monsieur Letellier. J'ai dit monsieur, il s'appelle Hervé.
Avec un taux désespérément stable en isobar et hectopascal, l'anticyclone Hervé Letellier se fait espérer, bloqué qu'il est par de faibles dépressions oulipiennes, déclenchant quelques phénomènes orageux sur les ciels de traînes habituels que sont les histoires d'amour. Gros temps persistant sur le vocabulaire, avec quelques débuts d'orage rhétorique sur les côtes, avec pluie syntaxique, voire même un peu de grêle et de neige aussi fondue que lui. Les tempêtes force 12 sont terminées sur le monde, les températures sont stables sur le front universitaire, quelques ciels dégagés sur France Culture, mais effet Venturi oblige, l'anticyclone Hervé Letellier a toujours du mal à se stabiliser. Il faudrait un gros prix Médicis pour qu'il s'installe longtemps sur notre territoire mental. Oui.
Vous avez quelque chose à ajouter, Hervé Letellier, à votre portrait?
J'espère qu'il y a des gens au jury Médicis qui vont écouter cette émission, qui vont enfin prendre en compte mon immense talent. Et j'ai toujours un peu peur quand j'entends le mot front. Voilà, mais ça s'est finalement pas trop mal passé.
Allez, retour à Dominique Muller avec le portrait maritime de Lucas Fournier. Ah,
qui largue les amarres sans quitter le ponton? Prendre un rio portant la mèche échevelée, il y parvient les doigts dans le nez et en breton. Lucas, c'est toi, à Brest, marin inégalé? C'est bien lui qui tâtonne. Bâbord, tribord, c'est où? L'enfant de la malouche chantre de l'opérette, bricole de tout bois et nous bourre le mou, même si en bateau, il ne connaît pas tripette. De mimique en accent, pas le temps de dire ouf. Petit baigneur, vêtu d'espièglerie candide, l'est à moitié Nemo, l'est à moitié surcouf, à moitié tournesol, à moitié Thucydide.
C'est bien.
C'est bien.
On aimerait être... On aimerait être à sa place, c'était très flatteur.
Mais il y a de quoi.
Alors vous, Lucas Fournier, je vous ai offert le portrait de Violaine Schwartz. Et comme c'est une chanteuse, une comédienne, écrivain également, vous avez eu envie de faire son portrait sous forme de chanson, une chanson de marin, une chanson
oui,
bretonne.
Oui. D'autant que Dominique Muller m'a traité de marin d'opérette.
Voilà.
Donc nous allons faire une petite opérette bretonne, mais j'ai besoin de cœur breton. Alors c'est un peu difficile, évidemment.
Oui, parce que tout seul, il chante pas mal. Hein. Enfin, si vous oui. écoutez les papous. Alors... Oui, en général, vous connaissez l'émission. Donc vous l'avez déjà entendu chanter. Donc vous savez qu'il faut un peu l'aider. Alors vous savez quoi? On va faire une petite répétition, puisque là on est dans le festival Longueur d'onde, festival de la radio. Vous êtes dans la cuisine aussi. Alors racontez-nous, Lucas.
Alors cette chanson comprend 4 strophes, oui. ayant chacune 2 vers. Ce qui oui. en tout fait 8. Ah, ça va. Donc je chante les 2 premiers vers, et ensuite nous reprenons tous ensemble le second vers. Vous voyez?
Mais il faut peut-être dire sur quelle chanson, non?
Alors c'est sur l'air de Trimatelot.
Vous connaissez?
Ou Trimatelode.
Trimatelode. Bon,
Trimatelot. Donc il faut bien écouter le second vers. Le premier, c'est pas la peine, mais le second. Parce que c'est celui-là que vous allez retenir et reprendre ensuite avec moi.
Allez, on fait une répétition après.
On fait un essai sur le premier et puis après
ouais.
on fera tout.
Ouais.
À quoi qu'elle rêve la jeune fille Violaine quand elle est sur la grève avec les autres bigoudaines? Quand elle est sur la grève avec les autres bigoudaines.
Oh, c'est parfait. Ben on voilà. se lance, bravo. Hein.
Voilà. Il faut le refaire 4 fois. À quoi qu'elle rêve la jeune fille Violaine, quand elle est sur la grève avec les autres bigoudaines,
quand elle est sur la grève avec les autres bigoudaines,
elle sait chanter comme Piaf et jouer Phèdre au théâtre. Quand elle sourit, nos gars, ils sentent très fort leur cœur battre. Quand elle sourit, nos gars, ils sentent très fort leur cœur battre. Une plume blanche s'envole avec des mots dans la dentelle. Elle rit légère et fraîche au-dessus du cap Fréhel. Elle rit légère et fraîche au-dessus du cap Fréhel. Elle rêve dans les nuages, elle se fout du vent de l'ouest. Et c'est pour ça, les gars, que votre fille, elle est mouette. Et c'est pour ça, les gars, que votre fille, elle est mouette.
Voilà, bravo, merci. On la refait.
Bon, ce sera prochain. Jamais aussi bien. Allez, soyez tous les bienvenus dans la maison des papous dans la tête. Cette séance est construite un peu comme une visite de maison, avec visite de la cuisine, de la salle de bain, du bureau, de la bibliothèque, un passage dans la chambre, passage express. Et là, donc, nous sommes dans le bureau, là où il y a toutes les machines qui permettent d'être intelligents, connectés, si modernes. Et dans le bureau, on a la chance d'avoir un bureau, il y a Violaine Schwartz qui fait un peu grise mine parce qu'elle a un souci. C'est quoi, Violaine?
C'est-à-dire que dans le bureau, il y a des codes et des mots de passe partout. Et ça me dépasse. Ça m'angoisse, j'y arrive pas, les mots de passe.
Ah oui? Non. Donc il y a un vrai problème.
Il y a un vrai problème, oui.
Donc vous avez écrit un pamphlet contre les mots
voilà,
de passe.
Voilà. Ouais. Code confidentiel, logging, identifiant, code PIN, code PUC, code barre, code d'accès, code de la route, code pénal, code postal, je mélange tout. Je me noie dans les chiffres, je me perds dans les lettres, je trébuche dans l'alphabet, je m'agrippe aux majuscules et je deviens minuscule face à cette armée de mots de passe qui colonise ma vie, ma mémoire n'y tient plus. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel est mon code, où est mon secret, où se cache mon mot de passe? Bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu la tentation d'écrire tous mes codes et mots de passe sur un post-it collé à mon ordinateur pour m'en souvenir. Mais un ami spécialiste me l'a formellement déconseillé. Et même sur la dernière page de mon agenda, même à la page 842 de la recherche du temps perdu, et même à l'envers, et même à l'encre invisible, ça ne vaut rien, m'a-t-il dit. Il faut tout cacher à l'intérieur de la tête, dans les plis et replis de la mémoire. Et donc j'ai essayé de suivre ses conseils, et j'ai entassé des chiffres et des lettres dans mon cerveau. Et maintenant, là-dedans, entre le cortex et l'hippocampe, il y a celui de la carte bleue, celui de la porte d'entrée de l'immeuble, celui du Vélib, celui de l'Autolib, celui du casier à la piscine, celui d'Amélie.fr, celui de la carte SIM, celui de Pôle emploi, celui de la Freebox, celui-là c'est le pire, écrit en tout petit, à l'envers, exprès. Et même avec une loupe, on n'y arrive pas. Il faut recommencer plusieurs fois en transpirant à grosses gouttes avec la peur de devenir fou. Et quand, par miracle, ça fonctionne, on n'est pas au bout de nos peines. Car ensuite, il faut se souvenir de celui du mail, celui de l'ordinateur, celui d'Apple Store, de YouTube, de Franprix, de la SNCF, de la FNAC. Toujours des nouvelles pages clients, et toujours des nouveaux comptes, et toujours des nouveaux codes, et toujours des nouveaux secrets. Et quand, par malheur, on bloque. Quand, désastre, on a un trou. Quand la machine vous répond « code incorrect ». Il faut alors se soumettre à des questions idiotes du genre « Quel est le nom de votre premier animal de compagnie ?» ou « Quelle est la marque de votre voiture ?» et recopier des chiffres écrits tout de travers pour s'identifier encore et encore. Avant, c'était simple. C'était « Sésame, ouvre-toi ». Mais maintenant, Sésame a fait des petits partout. Il a pris le pouvoir. On est devenu complètement sésamisé. Moi, pour lutter contre cette invasion, j'avais pris le parti de prendre toujours le même mot de passe. Pour Éducorus et pour la Philharmonie, c'était « des papous dans la tête », sans accent et tout attaché. C'était bien, c'était suffisamment long, puisqu'il faut 8 caractères minimum, m'avait dit mon amie experte, donc j'étais au large. Par contre, avait-il rajouté aussitôt, c'est trop simple. Ça manque de diversité. Faiblesse, risque de divulgation, il faut compliquer tout ça. Rajouter du mystère, inclure des caractères spéciaux ou des majuscules, par exemple, et pas forcément au début. Alors je lui obéis. J'ai effacé mon précédent mot de passe trop simple et je l'ai remplacé par des papous avec U majuscule dans N majuscule, la tote E majuscule. Ok, c'est déjà mieux, m'a-t-il dit, mais ce serait encore plus opérant d'y rajouter des chiffres. Tu peux remplacer les S par des 5, par exemple. Et mon mot de passe est devenu 2, 5, papou, U majuscule 5 dans N majuscule 5, la tote E majuscule. Je l'ai appris comme une petite comptine pour ne pas l'oublier. 2, 5, papou, U majuscule 5 dans N majuscule 5, la tote majuscule. Mais sur ce, mon ami spécialiste m'a dit que c'était très dangereux de se servir du même mot de passe pour tout. Que c'était un appel au piratage. Et il m'a parlé d'attaque par force brute, de cassage de mots de passe, de cryptographie asymétrique, de sécurité informatique, de logiciels de craquage, de communautés de hackers aux aguets. Et il m'a raconté que sur 3300 mots de passe en Amérique, la moitié était déchiffrable en 6 minutes. Et il m'a parlé de verre, de virus, de cheval de Troie, de mon compte bancaire vidé en deux temps trois mouvements. Et il m'a dit que la seule solution pour se protéger des pirates était de multiplier les mots de passe à l'infini en les complexifiant de plus en plus. Prendre une consonne ici, une voyelle ailleurs, et devenir poète de la langue, faiseur de rébus. Il m'a parlé bien sûr de sa méthode infaillible de prendre les premières lettres de chaque mot pour composer un vocable nouveau. Des papous dans la tête, devenant DPDLC. Mais pour le coup, c'était trop court. Du coup, il m'a conseillé de garder comme base des papous dans la tête, pour ne pas m'embrouiller, puisque j'y étais habituée, mais de l'écrire à l'envers, par exemple, ou de le traduire en morse, ou de le truffer de caractères spéciaux, des papous dans la tête, devenant 7-pou plus pas égale son doigt l'étale tête. Ou 2 apostrophe pas dollar puce dans 5 la tiret poule étoile. Alors, hors de moi, à bout de force, je lui ai donné un coup de slash dans l'arobase. Je me suis enfuie dans la forêt, renonçant à mon époque pour toujours. Là, j'ai trouvé un arbre creux. Je me suis glissée à l'intérieur. Et tout à coup, l'arbre s'est refermé sur moi, m'emprisonnant pour toujours, en ricanant. Tu la connais, la formule magique. Tu la connais. Pour écouter la fin de l'histoire, tapez votre code confidentiel. Sinon, tapez 1 pour revenir au début, 2 pour supprimer, 3 pour réécouter. Nous n'avons pas compris votre demande.
Des problèmes avec les codes, Hervé Le Tellier ? Non.
Aucun. Moi, c'est 1065. Pour tout.
On poursuit la visite de la maison des papous avec la cuisine. La cuisine, c'est le cœur de la maison. Il se passe toujours des choses. Revoir le film, lire la pièce de Jaoui et Bakri, cuisine et dépendance. La cuisine, c'est important et c'est le lieu que Lucas Fournier a choisi pour nous faire un discours. Alors, c'est un type un peu bizarre, Lucas. Oui. Je ne sais pas qui vous êtes ni à qui vous faites le discours.
Oui, je viens de m'installer après une première expérience un peu désastreuse.
Merci.
Avec une nouvelle partenaire,
ah,
très avenante,
ouais.
Valérie. Tout est bon chez elle, il n'y a rien acheté. Alors, chez elle, tout m'est permis, sauf une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Alors, c'est pas sa chambre, qui est un boudoir où l'on ne boude pas son plaisir. Ce n'est pas son cabinet de toilette, qui est une petite station balnéaire, non. Ce n'est pas la cuisine non plus, Françoise, qui est une petite taverne d'Ali Baba. Non, c'est autre chose que je n'ai pas le droit de voir.
C'est son quoi ?
Son frigo. Ça me gêne un peu d'en parler. Alors un après-midi, Valérie était chez sa mère, alors je l'ai hélas ouverte la porte étroite, la porte interdite de son vedette 430. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit réfrigérée et la petite lumière blafarde du frigo éclairait un spectacle insoutenable. Je les ai vus, eux, les occupants du frigo, dans le simple appareil d'une triste laideur que l'on vient d'arracher au sommeil glacé. Je les ai respirés. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, verts comme les prairies, dit le poète. Mais il ajoute, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Et là, dans le frigo, le corrompu pue. Oui. Sauf qu'il pue, les amis. Donc voici notre rencontre. Bonjour, je suis votre nouveau patron. Bonjour.
Ah, bah,
vous êtes qui, là, vous ?
Il y en a un qui répond, c'est un
non ? Je parie que vous êtes les navets, hein ? Ah, si. Ah non ? Les tomates ? Ah, j'en avais jamais vu comme ça. On dirait du Arcimboldo en bleu clin. Ah, c'est la moisissure. Ah oui, c'est le drame des mal logés. Et vous êtes depuis combien de temps dans le frigo ? À l'été dernier ? Ah oui, quand même. Et là, c'est quoi, là ? On dirait le lapin de dimanche dernier avec du guacamole dessus. Ah non, c'est de la mayonnaise, le guacamole, d'accord. Mais le lapin, c'est du développement durable, oui. Et à l'étage au-dessus, bonjour, vous êtes qui, vous ? Ah, je parie que vous êtes des canettes de bière, hein, toutes dures, toutes gonflées, non ? Ah, des yaourts. Fraises des bois à consommer avant Noël 2014. Et en plus, quoi ? Ah, vous êtes bio, ah. Bon, au-dessus, oh, bah, au-dessus, c'est le bon coin, hein, là, il y a de tout. Alors, des œufs, de la mousse au chocolat, du citron bleu, toujours. Un bol de soupe, de poisson, oui, ça se sent, de l'artichaut, un vaccin antigrippal, tiens, du lait de soja, des lasagnes dans un tupperware. Bonjour tout le monde. Bon, on va s'abstenir de descendre dans les bas-fonds, là, vers le compartiment surgelé. Il y a déjà 30 cm de neige en bas des pistes, et j'ai peur de trouver Michael Jackson sous les glaçons. Bon, eh ben, il était temps que j'intervienne, hein. Mes pauvres amis, mais les tomates, les yaourts, le beurre président qui date du dernier quinquennat... Je vais rétablir l'ordre. Ah, vous étiez plongé dans la nuit pascalienne de la chaîne alimentaire. Mais c'est fini, on va faire du bon boulot ensemble. Je lance le plan Smart Frigo 2016. Mon obsession managériale, dans un monde digitalisé ultra compétitif, c'est l'approche bottom-up. Ce qui compte, c'est l'épanouissement des hommes, des femmes et des objets. Valérie s'est épanouie à mon contact. Et vous, dans le frigo, eh ben, ça sera pareil, voilà. Parce que le genre frigo sauvage célibataire en mode élevage de bactéries, c'est fini, ça. Hein. Non, pour un frigo 2016, comme pour une femme, moi, je veux le triple E. E, élégance. Alors, vous, le jambon, là, les tranches, je ne veux plus vous voir sans rien. On se rhabille. Votre uniforme, maintenant, pour tous, c'est le film fraîcheur transparent. Bien tendu sur les assiettes et les compotiers. Hein. Je ne veux pas que ça plisse ou que ça fronce. Une petite bulle d'air sous un film, et c'est ascenseur pour la salmonellose. Non. Vous êtes tous solidaires. Le vivre ensemble, c'est vous qui le portez. La discipline, c'est la force du frigidaire. Eux, c'est l'efficacité. Dans l'entreprise Frigo, comme dans le monde digitalisé ultra compétitif, on est riche de cette diversité. Chacun a sa place. Je n'aime pas le mot plan social, non. Je préfère parler de restructuration par l'excellence opérationnelle. C'est plus difficile à prononcer, mais ça a plus de profondeur.
Et ça fait peur.
Non. Parce que les légumes vont retourner dans leur bac, le lait dans la porte, les yaourts au milieu, les bouteilles en bas, parce que la démocratie participative, la mixité sociale, d'accord, mais la sécurité alimentaire, d'abord. Et eux, enfin, c'est évolution. Alors, les glaçons qui n'ont pas dépassé le niveau bac depuis 18 mois, eh ben, vous devez changer. Le monde est en mutation. C'est un monde digitalisé, ultra compétitif. Je le répète, hein. On peut vous reconvertir en glace pilée. Et puis, il faudra vous ouvrir aux idées neuves. J'ai prévu de faire un open space en bas dans le frigo dédié à la forme et à la diététique. Une pépinière de start-up énergisante. Ça veut dire que les fromages qui s'étaient laissés aller couler en bas, ben, vous devrez aller ailleurs. Je n'ai pas dit délocalisation. Hein, je n'aime pas le mot délocalisation. Je préfère parler de mutation de compétitivité. C'est mieux, hein ? Voilà, mes petits. Ben, le cauchemar est terminé. On va inverser la courbe. J'aurai dans la journée un entretien individuel avec chacun. Vous aussi, les sardines dans la petite assiette, oui. Un entretien d'évaluation. Non, je n'aime pas le mot évaluation. Disons plutôt évolution. Nous sommes des enfants de Darwin. Vous me direz ce que vous faites là, dans le frigidaire, et on verra ensemble ce que vous pouvez apporter au collectif. Hein. Mais j'ai fait la même chose avec Valérie.
Oh, la pauvre.
Et alors, à midi... Non, mais ça concerne tout le monde, hein. Ouais, à midi, je m'attaque à l'Everest, le compartiment surgelé. L'iceberg qui est coincé dans le frigo, là. On va dégivrer. Alors, ce sera un vrai changement climatique. Une opération cathartique. Et dans cathartique, il y a...
Arctique.
Ben oui, bravo les surgelés. Oui, il y a cata aussi, mais bon. Enfin, pour nous, pour vous, la target. la cible, la target,
c'est
de baisser de 2 degrés la température du congélo. Hein. On est sur les standards internationaux de COP21. Alors, ne vous inquiétez pas les tomates bleues, j'ai aussi pensé à vous, je suis un peu le Steve Jobs du frigo. Hein. Innovation et destruction créatrice schumpeterienne. Et aussitôt après l'opération congélo, on va nettoyer les écuries d'Augias, enfin le frigo, au Karcher, à la Javel. J'ai fait pareil avec Valérie. Hein. Très bien. Enfin, et c'est très important pour un management du 21e siècle dans un monde digitalisé ultra compétitif, hein, il y aura aussi une cellule de soutien psychologique.
Ah, quand même.
Ah oui, que je confie à l'artichaut. C'est une plante de grand feuillage, comme disait Saint-Exupéry, et il pourra vous consoler. Voilà. Attendez, je crois qu'il y a Valérie qui rentre là. Alors, écoutez, on va reporter l'opération à ce soir. Hein. Rendez-vous à minuit. Allez, je vous laisse.
Je sais pas si ça va durer très longtemps entre vous, hein, Lucas, Valérie. Est-ce que Dominique Muller, vous êtes Valérie qui entre dans la pièce, non?
Il va être surpris, parce que je ne suis pas Valérie. Je suis son ex, et Valérie m'a téléphoné pour se plaindre. Je suis Brigitte, en effet. Vous comprendrez pourquoi elle est obligée de changer de temps à autre de petite amie, parce que vous avez vu son propos. Et donc, j'essaie de défendre à travers le frigo cette pauvre Valérie, si elle veut tenir le coup.
Oui.
Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Oublies-tu que je fus longtemps propriétaire et de ton cœur aimant et de ses aliments, sans tous les menacer d'ordre ou de rangement.
Mais c'est en verre, hein?
Je parle toujours en verre. Chacun ses petites manies.
De toute façon, il y a plein de verres dans son frigo.
Si observateur.
Sans blague, écoutez-moi ce vibrion tragique qui invoque Pascal et vous traite en mougique, bientôt gelé d'effroi, asservi sous son knout. C'est fou de pédaler ainsi dans la choucroute, d'ignorer que c'est quand il prend de la bouteille qu'un camembert coulant, ce grand frigo égaye. Qu'époisses ou poissons, sans filtre protecteur, exhalent librement leurs puissantes odeurs. On désinfecte, on veut sa cuisine sélecte, mais on n'est que frigorifiquement correct. Esprit psychorigide et maniaque et pervers, sachez qu'ici, on ne veut pas de Tupperware. Ces plats qu'avec respect ont reniflé mon nez, ces plats qui tant de fois ont sauvé nos dîners, trahis par ce maton, je les vois qui larmoient à cause d'un dictat, gloire des pisse froid. Rien que du frais, chérie. Je devine le bagne pour celle qui aimait réchauffer la lasagne et dévorer après l'amour un Paris-Brest. Qu'importe le crouton, pourvu qu'on ait les restes. Si Ève avait pris soin du jour de péremption, nul n'aurait croqué la pomme jusqu'au trognon. À votre paradis, vertu aseptisée, nous préférons l'enfer plus aromatisé. Puisque vous prévoyez la fin des haricots, songez au vide espace infini du frigo. Dépassez la date limite, ô œufs, ô nouilles. Et vous, pâté, yaourt, jeté par cette andouille de ce vedette ancien que le givre tapisse, on vous arracherait, vous menant à l'hospice. Mais n'êtes-vous blanchi aux rayons surgelés que pour voir en un soir le glaçon harcelé? Ô fraises, ô radis noirs, ô mon vieux salami, n'avez-vous tant vécu que pour cette infamie? Un peu facile, hein? Non, non, vous ne puez pas. Ce parfum délétère évoque les souffrants, ceux du jeune Werther. Sait-il, ce rabat-joie, qu'à l'heure où il se pieute, la Frankfurter Wurstel molle régalait Goethe? Sait-il qu'Albert Camus, dont il n'a que le nez, voulait voir son couscous de beurre rance orné? Sait-il que de Michel Tournier, le roi des zones, raffolait des enfants macérés au vin jaune? Et Giuseppe Arcimboldo, y peignait quoi? Fruits et plantes pourries pour des portraits narquois? Ne voyez-vous donc pas que du frigo la porte ouvre sur les tableaux de la nature morte, plus vivante que vous, car tel un poisson froid, sans grain de fantaisie, purée qu'elle casse-noix. Vous-même n'êtes plus un perdreau de l'année. Alors sur ces produits, pourquoi vous acharnez ? Ô fraîcheur éternelle, piqûre de botox, ces denrées restent de glace quand on les boxe, ou quand le temps les cogne, plisse et ratatine, sur vous plane déjà un fumet de patine. Votre ardeur ménagère a un goût de routine, mêlez-vous donc de vos oignons, sinon sitine. Oui, la bonne poire s'assoit dans le frigo, osez nous déloger, gare au coup de gigot.
On quitte la cuisine, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard, et on va dans la salle de jeu pour un jeu collectif. Les périphraseurs, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors, j'ai offert à Jean-Bernard Puy une phrase qui le concernait beaucoup parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette phrase il y a quelques années. Et je lui ai demandé de transformer les trois substantifs qui composent cette phrase, il n'y en a que trois, en les remplaçant chacun par une périphrase de son cru, une périphrase qu'il va imaginer, et puis d'insérer ces périphrases dans la phrase en jeu, de transmettre au suivant, qui était Serge Joncourt. Serge Joncourt n'est pas là, mais il a travaillé quand même là-dessus. Et donc c'est Violaine Schwartz qui a accepté très gentiment de reprendre et de défendre le texte qu'a fait Serge Joncourt. Donc Serge Joncourt, il avait fait comme Jean-Bernard Puy, mais sur le nouveau texte, et ainsi de suite avec Hervé Le Tellier, Lucas Fournier, jusqu'à ce que Dominique Muller reçoive un long texte, presque une nouvelle, qu'elle décortiquera pour tenter de retrouver les mots masqués sous les périphrases. Alors on y va, Jean-Bernard Puy, cette jolie phrase que j'aime tant.
Ah, alors c'est une phrase de Marguerite Duras,
ouais,
qui n'est pas tirée dans ses romans, mais qui est tirée dans l'interview qu'elle avait fait pour un journal, je ne sais plus exactement lequel, mais c'est une phrase absolument sublime qui vous hante.
Mais oui, c'est le cas.
Des années et des années.
Mais oui, vous allez voir.
Et c'est une phrase très simple. J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Alors, après, longtemps après, j'ai su ce qu'elle voulait dire par là, mais bon.
D'accord. Alors, à ce moment du jeu, je vais quand même demander à Dominique Muller, qui arrive en bout de chaîne, si elle a retrouvé cette phrase de Duras.
Je suis étonnée, je dois dire. Je suis assez étonnée.
Très légèrement.
J'ai retrouvé un tout petit bout et pas du tout un autre bout.
D'accord. Allez, on réécoute cette phrase, Jean-Bernard Puy.
J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches.
Donc, vous aviez souvenir, innocence et vaches à transformer.
Oui. Alors j'ai fait très très cool dès le début quand même,
oui,
parce que je savais que c'est Dominique Muller qui arriverait à la fin. Donc souvenir, souvenir, un retour inattendu d'une ancienne carte postale pleine d'un réel personnel. Innocence.
C'est pas mal. Non, vous n'avez pas compris, Lucas. Mais...
On n'a pas tout à fait compris.
Vous pouvez expliquer.
Un retour inattendu d'une ancienne carte postale pleine d'un réel personnel. Vous avez compris, vous ?
Oui. Oui. Non, mais ils sont très malins, eux.
Innocence, état premier bleu, rose, simple et heureux.
C'est les bébés, c'est ça ?
Et vache, alors là, il fallait
non,
quand
c'est
même...
C'est la vache qui est très bizarre, là.
Donc vache, c'est simple, c'est quelque chose que je pratique souvent. Nos secondes mamans.
C'est ça ?
Ouais, oh. C'est pas faux, c'est très mignon, ça. Très, très mignon. Donc vous insérez... vos périphrases dans le texte de Marguerite Duras, c'est
voilà.
Ça donne.
Ce qui donne. J'ai un retour inattendu d'une ancienne carte postale, pleine d'un réel personnel très violent, de l'état premier bleu, rose, simple et heureux, de nos secondes mamans.
Ça va, on a toujours la phrase de Duras en tête. Hein, mm-hmm. Enfin, moi, je l'avais parce que je connaissais la phrase de départ, évidemment.
Moi, je trouve que c'est mieux que Duras, mais bon... C'est pareil.
Alors, Serge Joncourt avait donc reçu ce texte de Jean-Bernard Puy. Il ignorait le départ, le point de départ de Duras. Et donc, Violaine, qu'est-ce qu'il a imaginé de périphraser ?
Donc lui, il a périphrasé carte postale,
oui,
rose et oui, seconde maman.
Oui, c'était des bons choix.
Voilà. C'était... Ouais. Donc, carte postale, image sans valeur ni âme tant qu'elle n'est pas timbrée.
C'est pas faux. Ah, bon, il n'est pas là pour se défendre,
non.
Alors bon.
Non.
On va
non,
pas
non.
l'enfoncer non plus, c'est pas mal.
C'est indéfendable.
Après.
Rose, couleur des idées progressistes.
C'est indéfendable aussi.
Et enfin, les secondes mamans.
Ouais. Mm. Femmes qui, sans être à l'origine même de ce que l'on est, n'en sont pas moins là tout le temps.
Ah oui. Ça, c'est assez c'est profond flou. Quand même. Hein. Ouais. Ah non, c'est profond, je pense.
Bah,
je pense que c'est un,
flou, moi.
C'est un compliment sur les femmes. Serge Joncourt aime les femmes. Vous croyez pas? C'est parce que vous comprenez, Violaine?
Si, 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 moi si, je trouve ça... Ah. Ouais, ouais.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est le nouveau
Alors,
texte?
J'ai un retour inattendu d'une ancienne image sans valeur ni âme tant qu'elle n'est pas timbrée, pleine d'un réel personnel très violent, de l'état premier bleu, couleur des idées progressistes, simple et heureux, de nos femmes qui, sans être à l'origine même de ce que l'on est, n'en sont pas moins là tout le temps.
C'est bien, surtout elle l'a très bien lu.
Oui, très bien lu hein.
Donc il y a beaucoup de sens. Tout ça déjà est parti de « J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches ». Alors le texte de Serge Joncourt vous est arrivé, Hervé, ma foi, vous n'avez pas fait trop de commentaires.
Non, je n'ai pas fait de commentaires, j'ai pris retour.
Oui.
Mythe fondateur et récurrent de la littérature. Pas de problème.
L'éternel retour, oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, oui.
Réel.
Oui.
Espace dans lequel, selon Lacan, il est loisible de se cogner. Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. Et donc, j'ai pris cette définition qui me paraît juste.
Oui.
Et femme, être délicieux, susceptible d'aller à l'école.
Oui, mais alors là, c'est un peu... Non ?
C'est très particulier.
Ah, bah, oui, qui a dit oui. Où ? Oui, oui,
oui.
Vous pouvez vous défendre ?
C'est une très bonne pièce.
Non, non, c'est la définition de Marie, ça, qu'il vient de donner.
C'est, ouais. Il est bon camarade, Lucas.
Ouais, il m'a sauvé par le gong. Alors, ça donne un texte, quand même, qui est un peu différent, mais si peu.
Oui.
J'ai un mythe inattendu et fondateur et récurrent de la littérature d'une ancienne image sans valeur ni âme, tant qu'elle n'est pas timbrée, pleine d'un espace personnel dans lequel, selon Lacan, il est loisible de se cogner, très violent de l'état premier bleu, couleur des idées progressistes, simple et heureux, de nos êtres délicieux susceptibles d'aller à l'école et qui, sans être à l'origine même de ce que l'on est, n'en sont pas moins là tout le temps.
Oui, reste sur...
ouais.
Non, non, mais c'est bien, c'est intéressant.
Il y a Lacan au centre.
Voilà,
oui,
voilà.
C'est exact.
On a l'impression que ça tournoie autour de Lacan.
Voilà, il y a une.
Ce qui est même le propre du langage en général.
Il y a une solide colonne vertébrale, on va dire.
Oui, oui.
Jean-Bernard Pouy, vous nous rappelez la phrase de Marguerite Duras.
J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches.
Bon, à ce moment du jeu, Lucas, je ne vous ai pas envoyé la phrase de Duras. Évidemment, je vous ai uniquement envoyé le texte d'Hervé Letellier. Je ne vous demande pas si vous l'avez compris.
Vous faites bien de ne pas me le demander.
D'accord. Donc on passe à l'étape suivante.
Non plus de faire l'analyse logique et grammaticale de la phrase.
Ah ben oui, mais chacun a son français,
oui,
sa façon d'écrire,
français.
Et puis on réforme tout.
Ça fait longtemps que tu n'as pas lu les écrits de Lacan.
Pardon ?
Quand on lit les écrits de Lacan, on a la même syntaxe, avec la même organisation un petit peu hors-fait comme ça.
Et d'ailleurs, on ne comprend pas tellement
non,
plus.
Non.
Mais moi, j'ai mis du Blaise Pascal pour que passe un peu mieux.
Alors vous deviez choisir trois substantifs ou groupes substantivaux.
Voilà, je les ai pris au début, à la fin et au milieu.
C'est bien.
Mythe, espace personnel et école. Bon, alors, mythe, forcément, quand on pense au mythe,
oui.
On pense au textile.
Ah non, là, vous trichez.
Non, j'ai pas triché, parce que mythe, vieux tissu d'invraisemblance, brodé de fil d'or, avec quoi l'on fabrique l'étoffe des héros.
Ah, c'est joli. Ah oui. Bon.
Alors, espace personnel, évidemment, la référence à Pascal, le silence de ces espaces infinis mais frais s'imposait. Espace personnel étendu plutôt fini, qui devrait rassurer Pascal, et dont les frontières sont infernales selon Sartre. Et enfin, l'école, mais ça c'est facile, c'est une maison close carolingienne où il faut subir des devoirs conjugaux et les caprices de ses maîtresses.
Je crois savoir que c'est une périphrase qui a posé quelques soucis à Dominique Muller.
J'ai vu le
colle assez vite. Tout
ah, bon, ah bah quand oui, même, quand même.
C'est bon. Bon. Moi, quand je suis une âme pure, quand je lis maîtresse, je vois une maîtresse d'école.
Oui, en tant qu'ancienne maîtresse d'école, oui, c'est normal.
Alors, vous avez distillé vos périphrases dans le texte qui vous venait d'Hervé Le Tellier.
Voilà, avec en plus un peu de syntaxe.
Ah, bravo.
C'est bien, de la ponctuation.
J'ai un vieux tissu inattendu d'invraisemblance, brodé de fil d'or, fondateur et récurrent de la littérature avec quoi l'on fabrique l'étoffe des héros. Il est d'une image ancienne, sans valeur ni âme, tant qu'elle n'est pas timbrée, mais pleine d'une étendue plutôt finie, ce qui devrait rassurer Blaise Pascal, et dont les frontières sont l'enfer, selon Sartre, et dans laquelle, selon Lacan, il est loisible de se cogner. Il est très violent, hein. À l'état premier bleu, simple et heureux, couleur des idées progressistes, de nos êtres délicieux, susceptibles d'aller dans une maison close carolingienne où il faut subir des devoirs conjugaux et les caprices de ses maîtresses, et qui, sans être à l'origine même de ce que l'on est, n'en sont pas moins là tout le temps.
C'est bien, c'est très très intéressant, je trouve. Oui. Et... À ce moment du jeu, on va rappeler la phrase de départ. J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches. Il n'y a plus les vaches, on va dire. Hein, enfin, il y a d'autres choses qui ont disparu. Alors, Dominique Muller, vous ne connaissiez rien du jeu avant de recevoir le texte de Lucas Fournet, oui. Et juste lui.
Oui.
Et donc maintenant, bah, c'est à vous de faire votre petit numéro, je dirais, et de décoder ce texte de Lucas pour retrouver les périphrases, les isoler, et peut-être débusquer les mots qui sont cachés.
Alors, il y a un mot que j'ai trouvé, c'est le premier, c'est « j'ai ».
Oui. Oui, d'accord, bravo.
Alors, pour ce qui est du vieux tissu inattendu d'invraisemblance, brodé de fil d'or, fondateur et récurrent de la littérature, avec quoi l'on fabrique l'étoffe des héros, virgule, il est d'une ancienne image, c'est naturellement le souvenir ou la mémoire. J'ai choisi le souvenir.
Formidable.
Parce que la mémoire, ça me venait de broder de fil d'or et de étoffe, c'était la moire. Donc la mémoire, les souvenirs, tout ça, c'est parce qu'il y a, comme il y a Lacan après, je me suis dit, ma fille, vas-y à fond pour les associations d'idées. Donc j'ai souvenir, et ça me débarrasse d'ailleurs de tout le premier paragraphe. Alors, l'ancienne image est déjà passée, mais sans valeur ni âme, tant qu'elle n'est pas timbrée. Naturellement, j'ai d'abord pensé aussi à une carte postale, mais ensuite j'ai pensé à une chorale, car je me suis dit qu'il s'agissait des timbres de voix.
Ah.
Donc j'ai souvenir d'une chorale. Alors, pleine d'une étendue plutôt finie, ce qui devrait rassurer Blaise Pascal, c'est dans la cour... On chantait dans la cour, parce que évidemment c'est pas les espaces infinis qui fichent la trouille à Blaise Pascal. Et comme je suis laïque, j'ai choisi la cour. Ça aurait pu être une église aussi, mais j'ai préféré la cour. Et naturellement, et dont les frontières sont l'enfer, c'est parmi les autres, parce que les autres c'est l'enfer de Sartre. Et dans laquelle, selon Lacan, il est loisible de se cogner. Alors ça, c'était pour moi un jeu d'enfant. C'était dans le réel. Voilà.
Bravo.
Bah oui. Nous n'en sommes malheureusement qu'au deuxième paragraphe. Et il en reste un tout entier qui est devenu « Où voguait mon imagination ?» Mais il faut que, évidemment que je vous l'explique.
Oui.
Parce que dans le texte que j'ai reçu, il est très violent. Et pour moi, la violence, c'est l'imaginaire confronté au réel que nous avons vu plus tôt, n'est-ce pas ? Et l'état premier bleu, simple et heureux, c'est évidemment aussi... L'imagination, toujours, c'est le rêve, enfin, tout ce qui n'est pas le réel, en fait. Couleur des idées progressistes de nos êtres délicieux, ce sont encore les petits enfants qui rêvent, qui sont des pirates, même dans une flaque d'eau, ça je ne sais plus pourquoi. Si, c'est parce que c'est bleu, voilà, c'est une flaque d'eau. Et en plus, ils se font des bleus aussi, voilà. Donc c'est où voguer mon imagination et susceptible d'aller dans une maison close carolingienne où il faut subir des devoirs conjugaux et les caprices de ses maîtresses, c'est un futur cancre. C'est l'un de ces gosses susceptibles d'aller dans une école obligatoire où il lui faudra être disputé par son père et sa mère pour des devoirs mal faits et les caprices de ses maîtresses, celles qui se fâchent en classe, d'où le cancre, n'est-ce pas ? Sans être à l'origine même de ce qu'on est, tout simplement car on grandit souvent en oubliant ses rêves et opinion personnelle, c'est bien dommage, mais enfin, je n'avais qu'une petite phrase à écrire, n'en sont pas moins là tout le temps. Je retombe sur tout le temps. Ce qui vous donne, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à me donner.
On vous donnera son 06.
Ce qui donne, j'ai souvenir de la chorale dans la cour avec les autres, si réelle, où voguait mon imagination de futur cancre, rêveur par-delà le temps. C'est bien sûr, c'est une phrase de Jules Renard dans Les Bucoliques, car il se trouve qu'il fut élève au lycée Charlemagne à Paris. Donc,
voilà. Les Carolingiens. D'accord.
On voit la différence, Dominique, entre Jules Renard et Marguerite Duras.
Très bien, Dominique, bravo. On va passer à l'amour avec Hervé Le Tellier, parce que comme l'a si bien dit Jean-Bernard Pouy, l'anticyclone Hervé Le Tellier a des problèmes avec l'amour, avec les amours. Donc il m'est apparu que ce terme d'amour devait être un petit peu défini, redéfini peut-être, à la lueur des papous dans la tête. Et donc pour notre petit rimailleur illustré, qui est notre dico en vers de la langue française, où chaque définition est traitée de façon poétique et légèrement subjective, puisque c'est le rédacteur qui fait un peu sa définition. Donc l'amour, les amours, vous traitez plutôt l'amour avec un grand A, ou les amours, ce qui dilue un petit peu le sens. Hervé?
L'amour avec un petit A.
Oui, je m'en doutais.
C'est un projet. Alors, vous voudriez savoir ce que c'est que l'amour.
Oui.
Vous n'êtes pas les seuls et non plus les premiers. Car l'amibe elle-même, animal peu glamour, se pose la question, elle est très divisée. Partout, on s'interroge, à Neuilly, Billancourt, à New York, à Pékin, Shanghai, Saint-Pétersbourg, chez les Inuits, les Peuls, les Papous, les Ouïghours, et même les Anglais. Mais tous demandent, qu'est l'amour? Et c'est moi qui, bien sûr, vais donner la réponse. Bien que la route soit, hélas, semée de ronces, bien d'autres avant moi en ont fait des poèmes, n'hésitons pas, les brutes, à faire rimer « je t'aime ». Je vous éviterai le trop de métaphores, les termes poétiques, genre le mot « aurore », et j'irai droit au but, évitant les discours, et vous éviterez par là un long discours. L'amour, l'amour, l'amour. Ne comptez pas sur moi pour une définition, nous aurions s'éprouvé un coin de la cervelle qui s'allume et clignote en rouge tel un lampion, lorsque tout tourtereau croise sa tourterelle, et vice-versa. L'amour, c'est un cocktail avec ocytocine, phéromone, dopamine, phényléthylamine. Retenez que l'amour, c'est d'abord une formule, et ne reparlons plus de toutes ces molécules. La chose est vraie partout, pour le tyrannosaure, comme pour le primate ou pour le grand condor, pour l'escargot, le thon et pour l'alligator, et pour le chihuahua et pour le doryphore. J'ai beaucoup comme ça d'animal en or, mais je vais m'arrêter là.
Oui, merci.
Non, je vous en prie. On m'a dit que c'était limité dans le temps, c'est dommage.
Oui, c'est vrai. Bon.
C'est tout ce qu'a trouvé la vie pour nous piéger, pour contraindre l'espèce à se perpétuer. Applaudissons l'artiste. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour peut être fou, surtout chez les Bretons. L'amour peut être vache, ou total, ou courtois. L'amour peut être vrai, ou grand, ou fort, ou bon. L'amour peut être tout, tout et n'importe quoi. On n'imagine pas le nombre d'adjectifs pouvant s'y accorder. Je dirais 100 au pif. Il peut être naissant, il peut être filial, ou tendre, ou maternel, puissant, immodéré, voire inconditionnel. On dit même parfois qu'il est, oui, mutuel. En ce cas, bien que rare, par bonheur contredit qu'il en est un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Des connaisseurs?
Gainsbourg.
L'amour est platonique, si on n'aime pas ça. L'amour hypothétique, surtout s'il n'y en a pas. Qui connaît l'alkékange? Personne? Je vous aide, c'est tout petit, orange, bourré de vitamines, et donc ça se mange. C'est un amour en cage. Un oxymore. En fait, ça finit en naufrage. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour des adolescents, des poèmes, des romans, des opéras, des cris, des râles, des chansons, sans oublier un millier, au moins, de citations. Des proverbes idiots, parfois contradictoires, comme l'amour rend aveugle, mais qu'il nous donne des ailes. Vous voyez le problème. À croire que chacun, sur un pareil sujet, a sa petite idée, a pondu son couplet. On dit que l'amour est un égoïsme à deux. que l'amour dure 3 ans, ou qu'il n'y a pas d'amour. Ou bien l'amour décroît quand il cesse de croître, ou bien elle court, c'est après la maladie d'amour. Ou bien passer l'amour à la machine, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. En fait, non, non, elles ne reviennent pas. Non, non, non. Non, ça rime avec jamais, ça rime avec toujours, et quand c'est la débâcle, ça rime à Azincourt. Ou mieux, en mots croisés, comme dirait Pérec, en 5 lettres, un petit anarchiste tchèque. C'est facile. Amour, car l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Moi, j'ai des doutes, il y en a quand même. C'est par exemple plus compliqué à 3. L'amour, l'amour, l'amour. On dit faire l'amour. Est-ce qu'on le fabrique? Et la copulation n'est-elle qu'une brique qui vient construire un mur dont on ignore tout? La hauteur, la largeur, l'épaisseur et le coût? Un lord anglais disait, pour parler de l'amour, que d'abord c'était cher, qu'ensuite c'était court, qu'enfin la position était fort ridicule. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire de rotule, bon, enfin, passons. L'homme parlait bien sûr de cet amour physique qui, lorsqu'il est bien fait, peut donner la sciatique. Non, n'allez pas plus loin, car comme le dit un grand auteur avec talent, et son roman d'ailleurs est à la librairie, assez parlé d'amour. Oh. Oh.
Assez parlé d'amour est un roman d'Hervé Le Tellier.
Mais oui, oui.
Ah bon,
c'est dingue.
Alors là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Lucas Fournier, sur l'amour?
J'ai trouvé une citation dans le dictionnaire.
Ouais.
Les gens qui parlent tout le temps d'amour, je ne les comprends pas. De Ludwig van Beethoven.
Oui, soit. Et vous, Dominique Muller?
Les pom-pom-pom d'amour. Ah,
oui, alors j'en rajoute une aussi à ce texte magnifique. L'amour, mon cher, vous vous fatiguez à le poursuivre, tandis que je l'écris dans la solitude de ma chambre. Faisant de l'amour un ancrage, je n'en fais pas un fromage. Proust, lettre à Montesquieu.
Ah oui, c'est joli, c'est authentique, ça oui, sent, hein. Ah oui. Ça ressemble en tout cas, ça ressemble.
Oui, et comment que c'est authentique?
Retour dans la cuisine de la maison des Papous, la cuisine. C'est l'endroit peut-être le plus important dans une maison. On y fait ses devoirs quand on est petit, enfin certains enfants. On y prend le café, on y petit déjeune, on y déjeune, on y dîne, on y fait des gâteaux, on s'y dispute, on s'y aime aussi. Et donc on revient à la cuisine avec Dominique Muller parce que elle a des rapports secrets avec certaines cuisines. Toutes les cuisines ne lui plaisent pas, Dominique.
Je ne vous le fais pas dire, mais d'ailleurs oui. Je vais vous le dire.
Oui.
Va des rétro, cuisine ouverte, Delenda est kitchenetta americana. Non au charabia des cuistres cuistaux, oui au latin de cuisine. C'est qu'il est bien huilé, le message cuisiné par les agences immobilières et les cuisinistes. Fini la pauvre ménagère claquemurée au fourneau pendant que le reste du monde se prélasse. Vive la cuisine participative, le partage des tâches dans l'espace de vie. En réalité, le concept est un coup de jackpot, encore l'Amérique, qui transforme un brave 2 pièces cuisine en 3 pièces, dont le fameux espace de vie est désormais orné d'un muret baptisé bar. Derrière, on colle un plan de travail, une paroi électroménagère, et le tour est joué. Voilà comment on fabrique une vie sans espace, étriquée, entassée, malodorante, au nom de la convivialité. Un peu de nourriture spirituelle, puisque la cuisine voisine avec la bibliothèque. Le mot vient de l'anglais « conviviality », dérivé du latin tardif « convivium », repas en commun, et inauguré par Bria Savarin dans la physiologie du goût, pour signifier les plaisirs de la table, bien avant les noces de canapé avec évier. Moi qui ne parle pas l'anglais de cuisine, je dis « primum cuisinare deinde participare ». Primo, la personne dont le buste dépasse du petit muret n'y est pas à table. C'est toi, c'est moi, c'est nous, cette personne coincée dans son corridor, affairée à découper, touiller, enfourner, mitonner, rissoler, assaisonner, dresser, s'efforcer de planquer les épluchures et la pagaille. Ça y est, ça sent. Le brûlé, la frite, le poisson, le fromage. Mais tu n'oses pas déclencher le tintamarre de la haute aspirante. Tant pis pour ton salon, tes coussins, tes livres, imprégnés d'un fumet indélébile, comme les convives d'ailleurs. Le raffut des casseroles, vaisselles, couvercles de poubelles, hélas, démunis de patins de feutre, t'empêche d'entendre le quart des conversations conviviales de ces cornichons. C'est qui cause et qui te parle en plus. Dis, tu en penses quoi, toi? Si tu savais de quoi, tu rajouterais ton grain de sel, mais tu es incapable de tenir une côte de bœuf d'une main et de l'autre te tenir les côtes de rire. À ton tour d'être cuisiné sur tes recettes et tes ingrédients. Ah bon? Tu mélanges chèvre et chou sans ajouter de perlimpinpin? Attends, on va t'aider. Tu ne peux pas leur dire d'aller se faire cuire un œuf et fatalement, les carottes sont cuites, ça se bouscule, ça farfouille dans les trois boyaux qui te servent de cuisine. Ave, salade César, tripoturie t'es saloutant. Sache que les invités n'ont pas plus que toi envie de mettre la main à la pâte, mais convivialité oblige. Non, non, non. Moi, je dis, volumus bonam vieillam cuisinam cum porta. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée pour entrer, sortir, revenir, repartir, laisser deviner un arôme alléchant. Auteur dramatique échangerait pièce en quatre actes contre trois pièces et une cuisine, écrit Pierre Dac. Pour Champfort, on court le risque du dégoût quand on voit comment se préparent l'administration, la justice et la cuisine. Dans une cuisine ouverte, où est le théâtre, où est la surprise? Pour elle, il n'y a de palais qu'au fond de la bouche. Le palais de la cuisine fermée est un royaume interdit aux casse-pieds. Moche, désordonnée, encombrée, qu'importe, cet antre préserve le mystère des mets, des vins. In vino veritas, mais qui se douterait que dans cette bouteille de grand cru clapote une bibine en promotion? Et qui soupçonnerait que sous cette présentation 3 étoiles se niche un plat sous vide réchauffé au micro-ondes? Ô tambouya, ô findus, panem et pares. Goûter avec les doigts, ramasser le rôti lâché par terre, laisser traîner les détritus, voir fumer et picoler en douce. C'est le bonheur de ce havre de paix et de solitude où tous les prétextes sont bons pour se réfugier. De l'autre côté du mur, que papotent donc tous leurs sous ces patates, ces nouilles, ces dindes qui s'incrustent? Toi, moi, nous, on enlève nos chaussures trop serrées. On se prélasse à la table de notre cuisine fermée qui a l'air d'une porcherie. Mais omnis bonum in porco. Alors, ensemble, nous scandons. Va des rétro, convivium horribilis, vae victis, cuisinis uvertibus omnibus.
C'est pas vous, Lucas, mais moi j'ai ressenti beaucoup de vécu dans la salle au moment où Dominique Müller a parlé du fameux gigot tombé par terre.
Ça arrive à tout le monde. Hein.
On ne reviendra jamais chez Dominique.
J'espère bien.
Hervé Letellier, qu'est-ce que vous pensez du sujet cuisine ouverte, cuisine fermée? Il y a du pour, du contre?
Je suis pour le contre, car je comprends ta colère, cher Dominique. Et combien je pourrais me trouver d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je le suis. Tiens, mais excuse-moi, cher Dominique. Tiens, reprends un graissin. Je dois parcourir un long couloir et retourner en cuisine pour faire décongeler la purée. Ben oui, Dominique, je décongèle de la purée en galets. Mais qu'en sauras-tu, pauvre convive, puisque tu restes au salon avec nos chers amis et que j'aurai l'audace pour faire croire qu'elle est maison de rajouter de la muscade et un filet d'huile d'olive. Porrea congelata con muscedei cano, chantait Virgile. Et voilà, hop, c'est fini, ni vu ni connu. La bonne purée maison.
Non mais c'est incroyable cette histoire, hein, est tellement drôle. Tu te rends compte, Hervé?
Non, Violaine, je ne me rends pas compte. Excuse-moi, je reviens de la cuisine seulement. J'ai fait tomber le gigot par terre. Et effectivement, vous n'en saurez rien, puisque j'ai en plus retiré le pauvre cafard qu'il avait écrasé dans sa chute. Eh oui, res cuiat in pace, cafardus, vulgaris écrasatus, comme dirait Martial. Bon, de toute façon, il faut que j'y retourne dans une minute pour faire revenir les haricots verts congelés aussi à la poêle. Je rajoute de l'ail congelé, un petit filet d'huile, c'est mon secret. C'est ma touche personnelle.
Au fait, vous connaissez la dernière qu'on raconte à l'Élysée?
Non, raconte.
Vas-y, raconte, Lucas. De toute façon, je dois repartir au bout du couloir. De toute façon, je ne suis pas certain que la poêle soit assez chaude pour faire revenir les haricots verts. Vous connaissez le meilleur moyen pour savoir si une poêle est chaude? Eh ben, c'est cracher dedans. Il faut que la,
faut que la salive flotte au-dessus de la surface, soutenue par sa propre évaporation. Je ne sais pas si vous le saviez, enfin bon, ah, elle n'est pas assez chaude. Ah. Crachatus fluctuat necmergitur. Bon, je reviens vous voir, hein, si c'est comme ça. Tiens, je mets les haricots verts, tant pis.
Et alors, à ce moment-là, François Hollande a dit une raison de plus pour préférer prendre le train.
Ah ben franchement, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Et je m'en moque bien. En plus, il faut que je carafe le vin. Bah oui, je carafe, c'est tellement beau. Une carafe au vino veritas, disait Cicéron. Et puis, ça me permet de prendre des cubits de gros rouge, de faire passer du vin du Languedoc de différents pays de la communauté européenne pour un Pessac Léognan 2012. Et je dis à ce moment-là, ah, il est un peu jeune, pardonnez-moi, mais bon, j'étais pressé de le boire. Ah, il s'en passe des choses dans ma cuisine, hein. Mais c'est l'avantage des cuisines lointaines, et fermées. On fait un peu ce qu'on veut, ça t'as raison Dominique. Valérie Rétro, cuisine ouverte, Delenda et Skitchinata, tout ce que tu veux, pour cuisiner heureux, cuisinons caché. Et vive les surgelés.
Ben voilà, allez. Les papous, c'est dans la tête sur France Culture. Et bonne nouvelle, Serge Joncourt, malade, ne nous avait pas accompagné à Brest. Eh bien, il est guéri, solide Serge. Il nous a donc rejoint cette semaine à la Maison de la Radio pour lire la réponse qu'il avait écrite au pamphlet de Dominique Müller contre les cuisines ouvertes. Et oui, il avait travaillé lui aussi pour cette soirée des papous en public à Brest et pas uniquement sur les périphraseurs. Donc, après le point de vue d'Hervé Le Tellier sur le sujet cuisine, celui de Serge Joncourt. Nous sommes en studio avec Dominique Müller, Violaine Schwartz, Serge Joncourt et Jacques Bertrand. Jacques qui a une cuisine comme presque tout un chacun. Elle est ouverte ou fermée, Jacques ?
On peut la fermer.
Donc elle est fermée, du moins qu'il y a une porte. Voilà.
Si la affinité. Plupart
du temps, elle est ouverte.
Et chez vous, Lucas ? Ben,
Dominique fait table ouverte tous les dimanches soirs au 43 rue du Bac, je vous le signale. Oui, aux auditeurs, c'est au deuxième étage. Je
table
vous donne le code.
Mais cuisine fermée. Je veux bien que tout le monde arrive chez moi du moment que je peux me cacher dans la cuisine.
Bon, écoutez, Serge Joncourt, je sais que vous aimez bien faire la cuisine. En tout cas, vous aimez bien tripatouiller des bons petits sandwichs avec de la roquette et des tas de choses délicieuses dedans. Oui, je ne sais pas si vous le faites.
Du camembert, du Saint-Nectaire, de la salade, de l'andouillette. C'est très
éclectique. Ça fleure bon. C'est... Mais je ne sais pas si vous le faites dans une cuisine ouverte ou fermée. Je ne sais pas si vous avez une cuisine, d'ailleurs.
C'est ça dans sa salle de bain.
Oui, voilà. Non, heureusement. Non, moi, je suis... Pardon, mais je suis plutôt pour là. La cuisine ouverte.
Ah bon, vous êtes contre Dominique ?
Bah oui.
Et pourquoi ?
Reprenez-vous, ma chère.
Mais chacun son truc.
Que dire ? Vademecum, Satanas, tabula rasa, kitchenet post-it. Oui, puisque vous nous amenez sur le terrain de l'étymologie éthylotestée et du lapin de cuisine, je vous rappellerai simplement à vous qui faites bien peu de cas de cette convivialité que répandent les bars de cuisine, c'est convivial.
C'est le petit muret dont elle parlait.
On s'accoude, ouais. On s'accoude, on trinque.
Oui, oui.
Je vous rappellerai donc que dans convive, il y a vive.
Il y a con aussi.
Ça a été long à venir.
Il y a aussi con.
Ça a été long. Les ravages de l'alcool. Allons. Alta latis patente, a posteriori conferit est, a priori, etc. Détendez-vous. Servez-vous donc un apéritif. Allez, César, morito te salutante, et Campari aussi. Sortez donc des schémas recuits sur la cuisine. Vous qui, visiblement, n'invitez en vos pénates que des patates, des dindes et des nouilles, si j'ai bien compris.
Des cornichons aussi.
Il y avait des carottes aussi. Hein.
Changez donc d'amis, ou ajoutez-en d'autres. Ouvrez donc enfin votre cuisine en grand et passez au troisième millénaire à l'ère de la cuisine 2.0. Oui, l'avenir est cette grande porte ouverte là devant vous. Mettez-y un compteur et une billetterie et vous verrez que ça rapporte. Bon, je m'explique. Vous n'êtes pas sans ignorer aujourd'hui que le monde est à l'économie collaborative, qu'au partage.
Oui, c'est comme convivial, collaboratif, tout ça, c'est pareil.
Covoiturage.
Oui.
Co-couchage, co-cuisinage. Tout ça, rémunéré, s'entend. Oui, de nos jours, quand on cuisine à lapin, la terre entière doit être au courant via les Instagram, Twitter, Facebook et autres. Tous les réseaux sociaux et d'un coup, la terre entière voit votre lapin de cuisine. Et dès lors, la terre entière
peut s'inviter chez vous. C'est ça le miracle. Et oui, ma chère, inscrivez-vous donc sur Uber Cook and Blablaco. Et ainsi, votre charmante studette à la cuisine Rikiki, chaque jour, eh bien, chaque jour à votre table, vous pourrez caser pas moins de, 90 clients.
Ah oui.
90 amis, pardon. Et oui, dites-vous bien qu'en faisant deux services par jour, un le soir et un le midi, grâce à l'ubérisation systématique des processus de service, vous ferez de vos amis vos clients.
C'est pas bête, hein.
C'est
fatigant, non ?
Ah oui, attendez, De même que vous ferez de vos neveux, nièces, grand-tantes des abonnés rentables. Eh oui, c'est fini le temps du gigauche où l'on faisait un sort pas de famille en n'étant que 15 à table. Aujourd'hui, il faut que ça rentabilise. Si en plus des 15 convives, vous rajoutez 35 couverts à 25 euros la formule complète, hein. Café, fromage, digestif en sus. Ça vous fait, par dimanche, 2850 euros net.
Ah oui, quand même, ça mérite de
réfléchir. Ah, oui. Les repas de famille, il faut les rentabiliser, il faut que ça serve. On va tout de même pas passer sa vie à ne s'engueuler qu'entre soi. Il faut ouvrir le champ de l'engueulade, comme celui du lapin à la moutarde. Oui, il faut ouvrir la kitchenette et garder un œil.
Sur les 80 personnes.
Absolument. Ne l'oubliez pas. Omnia domicilus revenum potest. Tenez, moi qui suis sur blabla car, blabla lit, blabla salle de bain, blabla lunch et blabla toilette, je peux vous dire que en ce moment même, pendant que je suis là devant vous à vous parler, eh bien dans mon 18 mètres carrés Bastille, il n'y a pas moins de 15 Australiens, 2 Colombiennes et 42 Chinois qui sont là pour le week-end en formule Airbnb Beefsteak. Airbnb Beefsteak, oui, c'est nouveau ça. Allons, Dominique, ouvrez grand votre cuisine, et puisqu'une vie ne suffira jamais pour parcourir le monde, eh bien, faites venir le monde à votre domicile. Votre bar de kitchenette, c'est la tour de contrôle d'où vous régirez l'univers, et vous verrez que dans le monde 2.0, l'amitié, on a beaucoup à y gagner.
Je suis accablé.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Gilles Manet, chargée de production Rémi Gouriot, à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour vos questions, réactions, suggestions, direction la page Facebook des papous. Et bientôt, vous pourrez à nouveau écrire vos remarques à la page des papous. Les commentaires reviendront un jour sur le nouveau site. Patience. On se retrouve dimanche à 12h50 pour la suite des Papous en public à Brest dans le cadre du festival Longueur d'onde. Au revoir, passez un bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture.
Quoi, quoi ? Ah !